Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbe à enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment, faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était au bout, mais je les ai bravés. Les gens étaient en nombre.
Bonsoir.
Bonne année.
Imaginaire, tous mes voeux.
Ouais.
Ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat, sur le site de Radio G. Ce soir, on va parler monstres.
Non,
ce soir, une monstre. Année monstrueuse, 2025. Non, on va pas parler monstres. Vous êtes tous allés voir Nosferatu.
Ah, bah, c'est pas un monstre, c'est un vampire.
Ah, bon, d'accord, tout va bien. Et puis, Sébastien, on va rester dans le thème du vampire. Ah, mais t'en as amené deux, finalement, des livres-jeux.
Oui, donc on va parler surtout de La Revanche du Vampire de Kate Martin, son dernier défi fantastique, qui est plutôt rare.
Mm-hmm.
Et puis j'en ai profité aussi pour lire une suite non officielle. En fait, La Revanche du Vampire, c'est le deuxième d'une trilogie qui donc comprend donc une troisième histoire, mais écrite par un fan, Mark Lenn, l'héritage du vampire.
Au vu d'ici, le livre a l'air aussi beau. Et puis, on continuera par les monstres avec Aurélie Wellenstein qu'on avait interviewée lors de nos dernières Utopiales où elle était venue faire la promo de la harpiste des Terres Rouges sortie au fleuve, une histoire avec il y a plein de monstres et tout. Des monstres peut-être plus modernes que Nosferatu, quoique on va parler du Nosferatu d'hier et d'aujourd'hui aussi. Donc, quelques minutes avec vous, mais avant, flashback. Sébastien, ton premier choix musical de l'année.
Voilà, bah c'est un peu un flashback, une petite référence un peu à l'année écoulée, donc un petit retour en arrière, mais
on
avec Patrick Bruel.
Sur le 101.5, ouais, pas souvent.
Back. réveille un jour, on se dit qu'on court tous vers la même histoire. On court tous vers la même histoire d'amour.
Alors, Nosferatu 2024.
Non, on commence par un petit brin d'histoire quand même, si vous voulez.
Très bien, un petit flashback.
Pour, parce que sinon, pourquoi Nosferatu ? Nosferatu, comme vous voulez.
Ouais.
Pourquoi pas Dracula ? Alors que c'était bien entendu...
Pourquoi pas Dracula ?
Dracula, si tu veux. Bien entendu, c'est une adaptation de l'histoire de Dracula écrite par Bram Stoker. Pourquoi Nosferatu ? En fait, ça démarre en 1922 à peu près, quand Murnau voulait adapter Dracula, et sa petite maison de production qui s'appelait Prana Film, créée par deux occultistes d'ailleurs, qui ont coulé juste après la production du film. Ils n'avaient pas les moyens de payer les droits d'auteur, donc ils se sont dit, c'est pas grave, on va changer les noms, on va changer un petit peu l'histoire, etc. Et puis on va faire un manque de peau. Ils ont été rattrapés par la justice, la veuve de Bram Stoker leur a fait un procès, ça a fait couler la boîte de production, je passe les détails, elle a demandé qu'on détruise les copies, etc. et tout, et donc, voilà. Donc, mais malgré son truc d'avoir changé Dracula en Nosferatu, et bien que les copies étaient censées avoir été détruites, il y a des copies cachées qui ont été retrouvées. Il y a un deuxième procès, enfin je passe les détails parce que j'en ai une demi-page là. Et finalement, au bout d'un moment, probablement la veuve étant morte, les procès étant terminés, et c'est peut-être tombé aussi dans le droit public. Bref, il y a des restaurations qui ont été faites et on a pu retrouver ce film de Murnau qui est quand même assez exceptionnel parce que c'est du muet, hein. Muet, du noir et blanc. Et on passe après, le muet, en fait, c'est du théâtre au cinéma. Enfin, pour ceux qui connaissent pas bien. on voit bien, c'est les expressions des visages exacerbés. C'est...
On appelait ça du cinéma expressionniste.
Ouais, c'est l'expressionnisme allemand, oui, c'est ça.
Ouais.
Mais donc, c'est très particulier. Mais en même temps, c'est la même histoire. Hein. Ça s'appelle Nosferatu, mais c'est bien l'histoire de Dracula, avec des différences mineures suivant les auteurs. Donc, il y a Murnau, il y a Herzog, il y a Eggers, qui ont...
Et Murnau, il a replacé Dracula en Allemagne ou pas? Non.
Alors après, c'est oui. Alors en fait, toute la première partie de l'histoire se passe tout le temps dans les Carpates.
Ouais.
Hein,
bon, ok. Hein.
Et effectivement, après, au lieu de se passer à Londres, ça se passe en Allemagne, etc. Bon, il a essayé de changer les trucs pour essayer d'éviter le procès, mais ça n'a pas marché.
C'était peut-être plus simple pour lui aussi.
Je pense, oui.
Et donc, il y a quand même. Enfin, je sais pas. Après, vous avez vu. Mes deux autres comparses, là, vous avez vu le dernier, là, de Egger, qui est très, très proche du Murnau, au niveau du scénario. Herzog, qui vient se placer entre les deux, c'est la même histoire, mais lui, il a pris des libertés avec la fin, qui n'est pas du tout la même que celle des deux autres, et il a une manière de traiter le sujet qui est presque un peu plus onirique. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de montagnes, beaucoup de paysages, qu'on ne voit pas dans les autres qui sont plus à l'intérieur. Mais en ayant vu les trois films, je les ai revus les deux récemment, là. J'ai vu le dernier puis les deux premiers. Et je trouve je me suis même demandé, j'ai pas recherché s'il y avait pas des passages qui avaient été tournés au même endroit. La même sorte de porte quand il rentre dans le château, il y a la même porte quand il va chercher dans les caves, etc. et tout.
Tu veux dire entre lesquels alors?
Entre les trois.
Non, entre les trois, ouais.
Sauf la fin, Herzog a vraiment pris des libertés avec la fin, qui est beaucoup plus sombre, C'est un peu plus proche des films modernes. Ah, je crois vous avoir eu, mais pas du tout, je suis encore là.
Robert Eggers, c'est ça, non? Réalisateur du dernier, il aime aussi, moi j'avais vu The Lighthouse de lui, j'avais pas aimé du tout d'ailleurs, mais il avait tourné avec du matériel d'époque, mais genre des années 30 ou 40, quelque chose comme ça, quoi. Donc il est un petit peu fétichiste aussi du cinéma du début du 20e siècle. Alors, réalisateur.
Alors justement, il y en a qui ont dit, Eggers, c'est la simple fait, un copier-coller de Murnau. Moi, je suis pas d'accord, parce que quand même, dans la réalisation, bon, évidemment, aujourd'hui, on est capable de faire des choses plus impressionnantes, peut-être dans le domaine de l'horreur, que, il a un peu joué sur le gore, parfois, hein, dans certaines séquences. Mais on reste bien dans le climat, quand même, lent de cette histoire. De ce personnage qui va signer un contrat de vente, en fait, qui va faire 8 jours de voyage pour y aller dans les Carpates, et qui se retrouve pris dans chez ce comte. Alors d'ailleurs, Herzog l'appelle le comte Dracula. Hein. Mmh. Entre temps, les droits ont été payés, etc. et tout. Mais Herzog ne fait pas. Par contre, par rapport au roman de Bram Stoker, il y a quelques différences. Nosferatu est sensible au soleil, alors que Bram Stoker ne l'évoque pas. La fin du roman est beaucoup plus positive, je dirais. Enfin, il y a presque une courte poursuite, un retour aux Carpates à la fin pour aller le retrouver, etc. Tout, alors que ça n'apparaît pas du tout dans les derniers films. Et puis, je vais encore dire un mot sur Herzog avant de passer la parole à mes comparses. Il y a un passage où la ville est sous la peste. Alors, dans les trois films, c'est évoqué avec les rats, tout ça. Mais là, Herzog, il le présente comme une sorte de délire de fin du monde. On voit des gens en train de danser sur une place, alors que les rats sont partout, les cercueils partout. Et ils disent d'ailleurs à Lucille, c'est partagez-le avec nous, c'est notre dernier repas. Donc, il a rajouté cette sorte de délire des gens qui savent qu'ils vont mourir, qui n'ont plus aucun espoir et qui comment on pourrait dire,
voilà. On a teuf.
c'est assez horrible, en fait. C'est, il y a pas de séquence horrible dans ce passage là mais leur comportement est complètement atypique, quoi.
OK.
Alors vas-y, et les trois autres là, vous avez tous vu,
Sébastien, alors pensez quoi?
Sans spoiler, je suis pas vraiment d'accord avec Patrice. Romain, tu as vu Nosferatu, fantôme de la nuit. Et moi, je trouve que le vampire par Herzog, je lui trouve une fragilité qui le rend touchant. Et il a de beaux yeux aussi.
Klaus Kinski, non?
Oui.
Ouais. Et il a un côté.
Qui voulait pas se maquiller d'ailleurs.
Ouais. Il a un côté romantique.
Yeux, on a pas besoin.
Il a un côté romantique. Et moi, dès que je l'ai vu, j'ai vraiment eu, on va dire, de la compassion au fil de le connaître dans le film. Et moi, je le trouve humain. C'est ce que j'ai lu aussi sur Internet, des critiques. Et je trouve que ce vampire, il est moins antipathique, par exemple, que le vampire de Murnau avec ses sourcils touffus. Lui, il a pas ça, en fait, le vampire de Herzog. Et alors là, le vampire là de Nosferatu 2024, lui, il est vraiment bestial pour le coup.
Ah ben c'est un vrai monstre.
Ouais, alors là, le souci que j'ai avec ce type de film, comme d'autres dont j'ai parlé à l'antenne, j'ai l'impression que, comme pour Beetlejuice, souviens-toi Jean-Luc, oui. Moi ce qui me dérange, là le réalisateur, ok, il fait un bon travail de mise en scène et tout, mais pour moi, ça sonne creux. Parce que le vampire me dégoûte. Et j'ai l'impression, Patrice, en fait, que notre époque aujourd'hui, elle a influencé un peu la représentation bestiale du vampire dans le film de Eggers, dans le sens qu'on le voit comme un prédateur, un amant pervers, donc qui va en fait placer sous son emprise Hélène. Alors que c'est pas vraiment le cas dans le film de Murnau et le film de Herzog.
Et la nouveauté, je dirais, dans le film de Eggers, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui la met sous son emprise, c'est elle qui l'appelle. Et ça, c'est très novateur, c'est je pense, par rapport... On voit bien dans ses cauchemars de jeunesse, etc., en fait, c'est elle qui crée la liaison. Mmh. Et je pense, dans les deux autres films, Si, il y a un petit peu ça, parce qu'elles font des cauchemars, mais on n'a pas l'impression que c'est à cause de leur désir.
Non, c'est son influence à lui.
Oui, c'est ça qui est plutôt mis en avant. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, là-bas, mais c'est... Et puis, il y a une deuxième originalité qui est dans dans la prise de vue, c'est que dans le premier, dans le Murano, c'est tout en ombre, etc., mais on le voit assez vite. Alors, il y a même des passages assez qui font rigoler aujourd'hui quand on voit dans le vaisseau qu'il transporte. Il y a un marin qui il se redresse comme une planche là, ouais, d'un seul
oui,
coup là.
Dans
celui de Herzog, effectivement, celui d'Herzog est sans doute plus proche du roman parce qu'en fait le roman c'est du romantisme. Effectivement, c'est une histoire d'amour malgré tout. Mais on le voit très vite. Hein, alors que dans Eggers, au début, ce n'est que de l'ombre. On ne le distingue pas. Et progressivement, et ça c'est très subtil, progressivement, il va apparaître, non pas comme dans un monstre, on voit simplement des bruits, etc., puis on se comment, ah, c'est lui. Non, non, progressivement, l'éclairage fait que, au cours des séquences, il va apparaître, et on va le découvrir comme un ancien, avec sa moustache, comme un ancien voïvode, je sais pas comment dire, mais un ancien chef de tribu. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort. Ouais. Et il y a des séquences qui sont extraordinaires, l'arrivée du bateau. Alors, tous les films parlent de la peste et des rats qui arrivent, mais Eggers, il a su tourner cette sorte de presque naufrage du bateau qui se cogne contre le quai, qui est à moitié, et tous les rats qui se dispersent, je trouve ça assez extraordinaire.
Jean-Luc?
J'ai pas vu les deux premiers.
Désolé. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du dernier?
Alors, du dernier, je me suis endormi.
On dit que le sommeil d'un vampire, c'est plus profond que
c'est ça.
Mais
il dort même.
À toi, faut pas t'emmener au cinéma, tu t'endors toujours.
Non, mais franchement, oui. Je vais dire pourquoi, je vais expliquer. Simplement que pour moi, le film est lent. Voilà, je pense que.
Mais les autres aussi.
Il est très très lent, donc du coup, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont, qui passe lentement, voilà.
Ok.
Même trop lentement, voilà.
Mais les trois films, je sais pas.
Je suis d'accord avec.
Les trois films sont lents par nature.
Alors oui et non, parce que quand je reprends le Murnau et le Herzog, eh bien, je les trouve certes lents, mais il y a des personnages qui sont, on va dire, secondaires, comme ceux qui accueillent le couple Hélène pendant que Hutter ou Jonathan Harker s'en va dans les Carpates. Mais ils sont pas, on va dire, aussi traités que dans le film de Eggers. Sauf que dans le problème du film de Eggers, c'est que ces personnages, ils restent fadasses. Donc ça sert à rien de leur donner des lignes et des lignes de dialogue et des scènes en plus pour avoir ce résultat-là. Je préfère les voir de façon secondaire et passée. Et ça donne, on va dire, un meilleur rythme au film.
Van Helsing, là, il est quand même bien développé et il prend, alors, contrairement au film de Herzog où il ne découvre la vérité qu'à la fin, alors que lui c'est le scientifique. Dans le film de Herzog, Van Helsing c'est un scientifique pur. Non, non, on va faire des expériences scientifiques. Puis oui, d'accord, c'est pas la peste, mais ça n'a rien. Alors que là, il prend parti pour ceux qui croient au surnaturel, on va dire. Et puis donc il a un vrai rôle.
Moi, je parlais surtout du couple.
Alors le couple, oui, c'est vrai qu'il c'est plus développé que dans les autres films. Mmh. Bon. Mais après, chaque réalisateur prend sa petite et bien entendu, ça n'a rien à voir avec la franchise des Dracula de la Hammer Film avec Christopher Lee. Ça c'est encore un autre.
Ou de la Universal, Universal. Premier film en 1931, quand même 9 ans après.
Alors c'était pas Lon Chaney parce qu'il était mort presque.
C'était Bela Lugosi.
C'était Bela Lugosi, oui.
C'est ça.
Bon, et donc le dernier, on le voit au cinéma en ce moment, c'est et ça. Les deux autres, c'est facile de les revoir là.
Oui. Alors ouais. Le Murnau, je l'avais dans une vieille collection, donc
il est peut-être sur archive.
Et le Herzog, il vient de reparaître. Le Herzog, il vient de reparaître en Blu-ray. Là, on le trouve à la Fnac facilement. La seule chose que j'ai regretté, c'est qu'il n'est qu'en version française. Alors, je ne sais pas s'il y a une VO, parce que comme Isabelle Adjani est française,
Klaus Kinski parle français.
Et puis par contre, Herzog est plutôt allemand. Donc ça m'a un petit peu. C'est vrai que ça m'a un petit peu gêné au début de voir cette version française, parce que je trouvais que le doublage n'était pas très très bon. Mais après, j'ai quand même été emporté par les images, la brume. Puis après, j'ai regardé les bonus. Il y a des anecdotes absolument fantastiques sur la manière dont Herzog tournait. Du genre à dire, demain matin, on va se lever à 5h parce que le brouillard va se lever et il y aura de la neige sur les sapins. Alors, ils étaient en juillet en Tchéquie, mais bon. je peux pas tout vous raconter, mais il y a des trucs absolument croquignolés.
On s'écoute un extrait de la BO par Popol Vuh en 1979. Jean-Luc, j'espère que tu vas pas t'endormir.
Je vais essayer.
On se retrouve dans quelques minutes dans l'imaginaire.
Parler brièvement de la revanche du vampire, défi fantastique, le 57e, donc écrit par Kate Martin et illustré par le génial Martin McKenna. Donc deux pointures au service d'une œuvre remarquable, mais bon, qui est rare aujourd'hui, comme il est paru en 95, et qu'à ce moment-là, donc, on était un peu dans le creux de la vague.
Et les tirages étaient réduits.
Vous êtes l'euro. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans la version française, tellement qu'on réduisait. Les illustrations, pour la plupart, ne figurent pas. On n'en a qu'une poignée.
Ça faisait gagner des pages.
Ouais, mais ça n'empêche pas que qui dit revanche dit que là, le vampire revient en force. On l'avait déjà dans Le Vampire du Château Noir de 1989. Sauf que là, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il sort de son château et qu'il va s'associer à d'autres créatures maléfiques pour pouvoir réaliser son plan de, va dire, prendre pouvoir, possession des populations de l'Analand. Rien que ça. Et vraiment, on ressent déjà l'empreinte du vampire par moment dans différents endroits. Et on a des choix, même des fois, on, à un moment donné, par exemple, on arrive vers un hobo. on a un brouillard et tout. On se dit, bon, là, il va certainement y avoir du vampire dans l'air.
Il est 5 heures du matin.
Voilà.
Il fait froid.
Le lecteur ne joue pas le vampire. Il joue un antagonisme du vampire.
Voilà, il joue un antagoniste du vampire. Et là, en fait, soudain, une voix féminine retentit dans la brume.
Ah ben, c'est Mina, tiens.
Criant au meurtrier.
Lucie ou Mina?
Allez-vous voir ce qui se passe ou allez-vous continuer jusqu'au mot? Moi, en fait, je me suis dit, je vais quand même aller.
Bah, tu vas quand même secourir la jeune fille en détresse.
En fait, c'est un.
Ah, bah, ça,
un vieux routier du livre dont vous êtes le héros. On sent que c'est un piège. Et en fait, c'est un vampire qui nous attend. Mais je me suis dit qu'en allant à la rencontre de ce vampire, j'allais oxyre une créature du conte et donc gagner du temps. Parce qu'en fait, on a des points de sang et plus on en gagne, c'est un peu comme des points d'expérience. Si on tue, par exemple, des créatures qui lui sont inféodées, eh bien, on gagne du temps, on gagne même de l'expérience pour après l'affronter, il est moins puissant. Okay. Donc, en fait, on a intérêt, des fois, d'aller se jeter un peu dans la gueule du vampire. Et ça, j'aime bien ces choix qui nous sont donnés par Kate Martin, où, en fait, ça paraît tout simple, on continue sa route, on va se jeter un peu dans la gueule du loup, parce qu'on a à réfléchir également par rapport à la gestion des points de sang, mais pas que des points de sang, Romain. On a aussi des points de foi. C'est-à-dire que si j'ai un bon score de foi, à un moment donné, il y a des zombies, pas d'habileté énorme, de 7, hein, tu vois, c'est pas énorme, mais grâce à mon gros score de foi, eh bien, je vais pouvoir les éloigner de moi. Ils ont peur.
Ah, mais ça, c'est des trucs de Donjons et Dragons, en fait.
Mais
oui, c'est ça. Tu es le clair.
Ouais, mais attention, Patrice, c'est que si on a trop de foi, par moment, on attire des créatures maléfiques à nous. Des monstres errants. Et dans l'héritage du vampire, je vais faire un pas de côté. À un moment donné, si on a trop de foi, on est face à un vampire, on est prêt à le tuer. Mais en fait, on peut être pris de pitié si on fait moins ou égal à son total de fois. Et si on a, par exemple, 9, 10, en lançant les 2 dés, on se retrouve à perdre. Pour ça, j'ai trouvé ça un peu vache. Mais je pense pas que Kate Martin, justement, joue avec, vraiment, là, le score de fois à cet extrême, on va dire, c'est un peu extrême. Mais j'aime bien parce qu'on doit essayer d'avoir un score de fois quand même à l'équilibre et avoir aussi le maximum de points de sang pour réussir, donc, à contrer, le comte vampire, Rainer Hedrick. Et qui va réapparaître également dans l'héritage du vampire, mais sous une forme différente. Donc là, on a affaire à la revanche du vampire, un très très bon défi fantastique, et qui nous emmène dans différents endroits. Et donc, on a justement à récolter des artefacts, des informations, pour pouvoir battre le vampire à son propre jeu, mais cette fois pas que dans un château, mais dans des lieux fermés, dans des lieux ouverts. Et on peut le rencontrer même différentes fois, épisodiquement jusqu'à l'affrontement final. Donc je recommande chaudement un très 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 bon défi fantastique.
Froidement.
Voilà. Aussi bon que le Nosferatu donc de Herzog que j'apprécie particulièrement.
Et une petite question, alors l'autre c'est une fanfiction, enfin je sais pas comment tu présentes ça.
C'est une aventure dont vous êtes l'héros, une AVH.
Mais alors lui on trouve peut-être plus facilement, non?
Alors en fait, c'est dû à la traduction d'un ami de la taverne des aventuriers, Bruenor, qui avait édité donc différentes chroniques appelées les Chroniques de Titans. Et qui avait décidé de rassembler les meilleures fanfictions, donc qui sont inspirées des défis fantastiques. Et là, donc, c'est une suite non officielle aux deux premiers de Kate Martin.
Et qui se trouve quand même sur Internet facilement.
Ou qu'on peut commander donc à Bruenor en passant par la taverne.
Ok, super.
Édité par Lulu, par exemple.
Très bien.
Voilà.
Merci. Eh ben, on va écouter l'interview d'Aurélie Wellenstein dans quelques minutes. Et donc, on file un petit peu plus à l'ouest et plus au chaud. Imaginaire sur le 101.5. Petite reprise d'Ennio Morricone par les Italiens de Junk Food en 2017.
12e jour d'Imaginaire et Radio G au Festival des Utopiales de Nantes 2024. Aujourd'hui, nous sommes heureux de rencontrer Aurélie Wallenstein. Alors, bonjour Aurélie.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va bien.
Super. Aurélie, tu es autrice de romans adultes et jeunesse, de nouvelles d'Imaginaire aussi. Mm-hmm. Tu es aussi scénariste de BD.
Oui.
Depuis quelques temps. Mmh. Et ton dernier roman vient tout juste sortir, La harpiste des terres rouges, à Fleuve Édition, dans la collection Outre-Fleuve. Mmh. Alors, dans ce nouveau roman, tu nous proposes d'explorer le nouveau continent Nakara, qui est peuplé de monstres, avec en compagnie du jeune Abraham, en recherche de son frère Jarod, qui a disparu justement en explorant l'état le plus mystérieux de ce nouveau continent, qui s'appelle Symphonie. Mmh. Alors, première chose, c'est dès la couverture, on voit qu'elle a harpiste des terres rouges, que ça nous plonge dans un univers hyper particulier, dans un Far West peuplé de monstres souvent grotesques. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'enfant des Mystères de l'Ouest et de Silent Hill. Est-ce que c'est ça ?
J'adore les références. En fait, oui, donc j'ai mis en scène un univers qui reprend les codes du Far West. On a tous un imaginaire collectif assez riche sur l'Ouest américain, qui est pétri et nourri de films qu'on a pu voir, de bandes dessinées, de lectures. Donc je reprends des grands codes de cet imaginaire, des terres chaudes, désertiques, dans des camaïeux rouges, oranges, rosés, des grands canyons, des plateaux escarpés, des cactus, des coyotes. Vraiment un imaginaire classique de western que je vais donc déplacer vers l'imaginaire avec donc des créatures fantastiques qui peuplent ce continent donc que j'ai appelé Nakara. Donc on a nos pistoleros, nos personnages qui vont être opposés en fait à des monstres et au plus terrible d'entre eux qui s'appelle la harpiste, qui est en fait une très grande femme qui fait plus de 2 mètres de haut et qui n'a pas de visage, qui n'a pas de tête, c'est une harpe à la place de sa tête. Donc c'est vrai que tu cites Silent Hill, on pourrait penser à Pyramid Head avec sa pyramide sur la tête. C'est vrai qu'il y a une proximité entre Pyramid Head et ma harpiste. J'ai voulu offrir finalement un personnage très froid, à distance et très inhumain, vu qu'elle ne parle pas, elle n'a pas de voix, elle n'a que sa musique.
Et elle n'a pas de visage.
Elle n'a pas de visage. Donc voilà, c'était pour faire une créature très monstrueuse. Et j'aime bien la référence à Silent Hill aussi, parce qu'il y a tout ce côté déformation des corps, la dimension très horrifique qui imprègne aussi ce roman. C'est un roman que j'ai voulu onirique mais aussi cauchemardesque par moments, et qu'on plonge donc dans un imaginaire assez inquiétant. De toute façon, j'aime bien de manière générale être inquiétante. Et donc si je pouvais qualifier le genre de ce roman, donc je dirais plutôt que c'est du weird west, du western étrange.
D'ailleurs, dans ce roman-là, alors il y a beaucoup de concepts, effectivement, tu viens d'en aborder quelques-uns, mais peut-être le concept central, c'est cette idée de pouvoir être greffé. Mm-hmm. Quand on arrive sur le continent, on peut trouver des organes de monstres de manière plus ou moins facile, et puis se faire greffer par des chirurgiens, comme on imagine les chirurgiens du Far West ou même du Moyen-Âge, là, qui va nous faire ça sur un coin de table, et qui, pour avoir déployer des pouvoirs spéciaux. Donc on est dans l'hybridation. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal, c'est dans ton œuvre aussi, cette hybridation, cette idée d'hybridation.
Oui, assez fréquemment, c'est quelque chose que j'ai... J'allais dire pas tout le temps, mais presque utilisé dans mes romans. Donc là, effectivement, le système de magie repose sur la greffe, comme tu l'as décrit, avec en plus une limitation, enfin une double limitation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un rejet de greffe dès le début et que la personne en décède rapidement. Mais même si la greffe prend que ça réussit, la greffe va se retourner contre son porteur toutes les nuits. C'est-à-dire que le jour, le pouvoir fonctionne. Et en fait, la greffe donc d'organes attribue un pouvoir magique aléatoire à son porteur. Et quand la greffe prend, c'est-à-dire que le jour le pouvoir fonctionne et la nuit le pouvoir se retourne contre son porteur. Voilà, je voulais juste préciser cette petite dimension limitative de mon système de magie dans la harpiste. Et sur l'hybridation, donc qui traverse tout le roman, ne serait-ce qu'avec donc cette antagoniste qui a une tête de harpe, elle-même va greffer ses propres troupes, elle ampute ses musiciens pour leur greffer des instruments de musique à la place des membres. Et on a aussi toute une dimension animale dans le texte qui va avoir une grande importance. J'ai voulu avec la harpiste en fait partir des codes un peu classiques du Far West pour aller vers quelque chose d'assez inattendu et plus qu'étrange, c'est-à-dire d'avoir aussi une portée antispéciste dans le texte.
Il y a justement ce que tu dis, en fait, on n'a pas cette impression d'un pouvoir. On a l'impression que c'est on est vraiment dans l'hybridation. On a comme si on acceptait l'étrangeté de ce nouveau monde. Mmh. Et en même temps, il y a ce que tu appelles justement le revers et qui arrive la nuit. Et c'est d'ailleurs ce cycle jour-nuit, alors qui fait qu'on n'est pas dans du super-héros. Au contraire, on n'a pas envie d'être à la place des greffés, quoi. Et ce cycle aujourd'hui, ça m'a fait aussi penser à Silent Hill pour ça. Où il y a un moment, il y a la sirène qui dit, hop, c'est bon. Là, on passe dans un moment, c'est très, très compliqué. Là, c'est la nuit. Et la nuit, il faut que, quand on est greffé, il faut qu'on fasse attention et on a même des rituels.
Ouais. Mais vraiment, c'est très marrant que tu parles de Silent Hill, parce que moi, c'est une de mes références. Enfin, le 2, hein, notamment. Que j'adore. Et je l'avais déjà fait dans Le Roi des Fauves, dans la première apparition du démon Book. Et là, je le refais dans la harpiste, c'est-à-dire l'apparition du monstre dans l'obscurité. Et on voit cette grande femme dans sa robe blanche avec sa harpe là, à la place de la tête, et qui ne bouge pas et qui est là et qui est en attention. Elle ne regarde pas vu qu'elle n'a pas d'yeux, mais toute son attention est portée sur le personnage principal. Et il y a cette scène donc dans Silent Hill 2 pour la première fois qu'on voit Pyramid Head à travers les grilles d'un couloir des bâtiments du début. Et on le voit juste là, qui est là, derrière la grille, et qui vous observe. Pareil, il n'a pas d'yeux, lui non plus. Et qui respire lentement, et on le regarde respirer. J'adore cette scène. Et du coup, je la reprends voilà, dans plusieurs de mes romans. Et du coup, pour cette histoire de nuit, donc la nuit est très effrayante, la nuit est très inquiétante. Dès qu'on bascule dans la nuit, donc on bascule dans le revers. Alors, je vais donner un exemple, des exemples précis pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent de quoi il retourne. Par exemple, une des personnages principaux du roman qui s'appelle Belle, et donc une chef de gang de chasseurs de primes. Et elle, en fait, elle a un pouvoir très très puissant. Elle a dans son ombre un lion. Elle a une ombre, son ombre est devenue blanche. Et elle peut faire apparaître à loisir, son ombre se transforme en lion. Par contre, la nuit, son ombre ne disparaît pas, son ombre est toujours là, et elle doit clouer sa propre ombre avec des poignards, et donc après elle ne peut plus bouger, elle est vulnérable la nuit à cause de ça, pour empêcher son ombre de se retourner contre elle. Donc ça, c'est le revers de Belle. On a un homme qui s'est fait greffer les yeux d'un aigle. Et l'aigle est toujours là, pour le coup, lui, il n'est pas mort. L'aigle porte ses yeux d'homme et l'homme porte les yeux de l'aigle. Et donc, la nuit, en fait, leurs deux personnalités commencent à s'interchanger. Donc, il met l'aigle en cage et lui-même met sa propre tête dans une cage. Donc, il porte une cage sur sa tête la nuit. Voilà, je trouvais l'esthétique à la fois étrange et un peu marrante.
Ah oui, on est dans l'étrange en permanence, en fait. Et d'ailleurs, dans l'harpiste, alors il y a autre chose aussi qui m'a marqué, moi, c'est les personnages. Donc, Abraham, c'est le héros. Sans dévoiler l'histoire, il va à la recherche de son frère sur le nouveau continent. Donc, on sent qu'il est part de l'ancien continent qui pourrait être un peu comme l'Europe. Il arrive sur le nouveau continent. Et il rencontre un gang avec lequel il va avoir affaire. Et là, ce qui m'a marqué, c'est les personnages qui sont très caractérisés. Vraiment extrêmement caractérisés. Alors, non seulement par leur pouvoir, mais c'est pas ça le plus important. C'est chacun représente un archétype, mais qui est quand même travaillé d'une certaine manière. Et il y a une esthétique, il y a quelque chose de très visuel. Moi, je pense par exemple à Earl, qui a à la place de son œil, il a une rose qui va éclore et qui va faner la nuit. Mmh. Tout de suite, je sais pas pourquoi. Alors là, peut-être que me dire où sont tes références. Moi, j'ai pensé à des personnages de manga. J'ai vraiment eu cette impression-là, quelque chose d'extrêmement visuel, extrêmement marqué et extrêmement original.
Moi, je me suis beaucoup construit. Donc, on a pas mal parlé de Silent Hill. De façon générale, je me suis beaucoup construit avec les jeux vidéo. Je pense que la harpiste, notamment, a une esthétique assez forte sur le jeu vidéo, avec la progression, les pouvoirs, les combats de boss, et assez présente dans la colonne vertébrale du roman. Le manga, j'adore aussi, les animés, je suis très nourrie par ça, par cette esthétique-là. Des personnages avec une fleur dans l'œil, c'était dans un Drakengard, que je n'ai pas fait, je crois que c'est le 3. Voilà, et puis ça doit aussi exister dans d'autres œuvres. Oui, donc vraiment ça. Je pense que maintenant les auteurs de fiction sont nourris par beaucoup de transmédia en fait. C'est plus que la lecture pure, c'est d'autres choses aussi d'autres médias qui nous nourrissent. Et donc ça peut rejaillir comme ça quand on lit les romans quoi.
Et là c'est plus ou moins conscient. Non, ça a l'air d'être conscient quand même.
Ouais, je pense, ouais. Ouais, surtout le jeu vidéo, hein, vraiment, j'ai plein de romans qui se sont architecturés autour du jeu vidéo.
Et alors, dans ce roman, évidemment, on retrouve des éléments qui sont propres à ton œuvre, en tout cas, c'est ce que ça donne comme impression, c'est l'étrangeté, on a dit. Alors, là, on tape dans le très étrange, mais toute ton œuvre est traversée par l'étrangeté, et puis l'inquiétude que ça crée aussi sur cette étrangeté. La cruauté, il y a quand même des choses, voire le gore en fait, hein, c'est quand même assez soit cruel, soit vraiment, c'est pas mettre entre toutes les mains. Et puis, les chevaux. Alors, quand on écrit, on peut pas lutter contre sa nature, Aurélie.
Le naturel qui revient au galop.
C'est ça, au galop.
Les chevaux reviennent au galop. Oui, bien sûr. Alors après, je pense que toutes les œuvres sont à la fois différentes et avec des esthétiques différentes, et en même temps, elles se donnent chacune la main. Il y a une chaîne qui va traverser toutes les histoires, même si d'un côté on est dans un désert, de l'autre côté on est là au Far West, après on va aller en Sibérie. J'essaie à chaque fois d'aller dans des environnements variés, mais moi c'est les thématiques qui m'intéressent, donc forcément elles vont rejaillir. Donc là, oui, le cheval a un rôle important, on va le comprendre en lisant le roman, je ne vais pas trop en parler maintenant. Et de quels autres thèmes tu me parlais ?
En fait, la cruauté, c'est quand même cruel.
Oui, alors, et en plus, je l'ai beaucoup atténué, hein, parce que quand j'ai écrit l'histoire, le premier jet était très, très...
Le premier jet de sang.
Oui, le premier jet de sang était très cru. Hein. C'est notamment, il y a une scène, c'est presque une scène... C'est pas le pivot, c'est un peu après le pivot. C'est un roman à pivot, hein, l'harpiste. Et on a une scène dans un saloon qui est super cauchemardesque, en fait. Je voulais vraiment qu'on ait l'impression de basculer dans un rêve affreux, et notamment cette scène-là, je l'ai un peu atténuée, parce qu'elle était... Je me dis, mais là, en fait, tu vas perdre des gens, quoi. C'est... Ouais. Donc, j'ai une tendance aussi assez cathartique à déchaîner des trucs dans les romans, et après, quand je retravaille, je fais en sorte que ce soit lisible, quoi, parce que faut qu'on soit audible. Donc il y a une dimension gore, et notamment dans cette scène, je pense que c'est peut-être là une des pires, celle du saloon là au centre du bouquin. Et après, moi j'aime pas faire du gore pour le gore, hein. J'essaie toujours de servir un propos, mais oui, il y a un côté aussi assez cru et cruel, mais c'est même pas à la hauteur de ce qu'on fait dans la réalité, hein, aussi, hein.
Alors la scène du saloon, justement, c'est une scène un peu particulière, parce que là t'empruntes carrément les codes de la littérature d'horreur ou du film d'horreur. Là on est vraiment dans quelque chose de très angoissant, où on plonge dans une sorte de cauchemar éveillé, et on sent cette tension qui monte. C'est peut-être une scène centrale finalement dans ce roman là
oui, c'est même, j'allais la nommer la scène pivot. Alors le pivot, il intervient un tout petit peu avant, parce que c'est lui qui va faire basculer le récit, mais je trouve que le pivot se passe de jour, et après on a cette scène de nuit
dans c'est le assez salon, progressif quand même,
ouais, qui je pense que là où vraiment le personnage bascule dans une espèce d'atmosphère de plus en plus onirique, quoi. Il va de plus en plus se perdre en fait dans cet ouest étrange là, dans ce
un peu paranoïaque aussi,
oui, ouais.
Alors, c'est d'autant plus étonnant parce que tu écris pas mal pour la jeunesse. Donc, quand tu écris pour la jeunesse ou quand tu scénarises des BD pour la jeunesse, est-ce que tu prends un autre point de vue? Est-ce que tu essayes d'aller contre ta nature? Ou pas du tout, c'est autre chose que tu vas exprimer
Bah non, je suis obligée de monter sur les freins. Quand on écrit pour la jeunesse, l'exemple le plus parlant, ça va être Pirates de l'espace, qui est vraiment pour les tout petits, et qui parle de la cause animale. Donc moi, quand je parle de la cause animale, j'ai tendance à être très très véhémente, assez engagée, et donc je suis membre d'L214 et de Sea Shepherd, et je trouve que les moyens de communication de ces associations sont extrêmement efficaces, de passer par l'image et de montrer la réalité de l'exploitation animale. C'est même assez souvent insoutenable à regarder. Donc, mais c'est très efficace. Enfin, moi, c'est grâce à ça que je suis devenue veggie.
C'est regarder la réalité en face.
Oui. C'est après quand on fait tomber les murs de l'abattoir, on peut plus manger de viande. C'est pas possible. Quand on regarde vraiment ce qui s'y passe, c'est insoutenable. Donc voilà, on est là avec la cause animale et on doit écrire pour les petits. Alors, comment on fait ça? Dans mon premier tome des baleines stellaires, je voulais parler de la biodiversité à travers l'exemple de la baleine de l'espace. Et notamment de l'exploitation de la baleine pour son huile stellaire, son huile des étoiles. Dans ma première version, j'avais une scène très crue d'abattage de la baleine de l'espace. Et l'éditrice m'a dit non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas avec des petits avoir une scène aussi dure. Alors, ce qui m'a beaucoup agacée, j'ai trouvé que l'éditrice manquait de courage et de conviction. Et en fait, en réfléchissant, je criais trop fort. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on va être plus efficace en passant par le merveilleux. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et dans Pirates de l'espace, les baleines stellaires, on va avoir une rencontre avec l'animal qui va être absolument éblouissante, fascinante. Il est merveilleux, il est très beau. Et c'est aussi par la beauté de l'animal qu'on va d'abord s'attacher à lui. Et c'est pour ça qu'après, on va être en empathie avec lui et le plaindre quand le chasseur de baleines va le chasser et va le tuer. Et donc ma scène ne se passe plus dans un abattoir, mais quand le harpon du chasseur de baleines transperce ma baleine céleste, elle se change en pierre, en une espèce de lune morte. Et donc je suis passée par quelque chose de beaucoup plus symbolique, de beaucoup plus métaphorique, plus poétique aussi, donc une baleine stellaire qui se change en astéroïde, en lune morte. Mais je pense qu'effectivement ça fonctionne plus sur ça peut marcher sur un esprit d'enfant qui s'est attaché à la merveilleuse baleine des étoiles et qui la voit se transformer en lune morte, plutôt que de dire ok, on va amener la baleine stellaire et on va l'écarrir dans un abattoir avec du sang partout, comme ce que j'avais fait dans ma première version. Donc voilà, avec les enfants, cette longue réponse, tout ça pour te dire qu'on ne fonctionne pas pareil avec les adultes et l'écriture pour les enfants, et qu'on doit adapter notre récit à l'âge de la personne. Et moi, je suis obligée, moi qui ai une très grosse carapace, je suis obligée de faire un peu attention à ça pour ne pas être trop dark avec les petits.
Ouais, on n'aura pas le traumatisme qu'on a quasiment tous eu avec la mort de la maman de Bambi.
Ah quoi, oui, mais ça c'est très important qu'on voit la mort de maman Bambi.
Ouais, moi je m'en rappelle encore.
Mais c'est très bien, c'est parce que ça marche. Et voilà, et bien sûr que Bambi est tué, la maman de Bambi est tuée tous les jours dans la réalité. Mmh. Oui, oui, oui.
Tu parles de l'antispécisme, mais dans le roman, ça se voit. Alors, on peut le voir comme ça, on peut ne pas le voir. Ça dépend quelle est notre grille de lecture. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est qu'on a un monde qui est extrêmement inhospitalier pour les humains, on va dire, mais qui n'est pas forcément ni bon ni mauvais en soi, à part peut-être l'harpiste, et encore c'est à voir, et que quelque part il y a l'idée qui transparaît que la nature, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont nous on l'aperçoit, il faudrait peut-être lui foutre un peu la paix, quoi.
Oui, c'est bon, c'est exactement ce que dit le roman. C'est vers ça qu'on se dirige. C'est vraiment, on a les pionniers qui arrivent pour conquérir ce nouveau territoire et l'exploiter en fait. Hein. Parce que donc c'est une métaphore de la ruée vers l'or. Donc on va exploiter les minerais, la terre et tout ça. Et donc là, on exploite les minerais, la terre, la magie. On découpe les animaux pour leur prendre leurs organes. Et finalement, on va tout écraser, venir avec la biodiversité absolument merveilleuse qu'il y avait sur ce territoire. Il y a une scène pour moi qui est clé hein, dans le roman, où le personnage est confronté à cette biodiversité fabuleuse et qui est une scène onirique et en même temps merveilleuse, ou un peu comme dans Les Pirates de l'espace, où pour le coup on va vraiment s'émerveiller. On voit plus les créatures de symphonie comme des monstres mais comme des merveilles.
Ouais, parce qu'on change de point de vue à ce moment-là.
On a basculé dans autre chose. Voilà.
Et par contre, on voit pas de bison. C'était fait pour, parce que c'est vrai que première chose qu'on pense dans la conquête de l'Ouest, l'éradication des bisons finalement. Il y a pas de bison dans l'Ouest, dans ton Ouest à toi.
Non, effectivement. Même à la scène à laquelle je pense là, les animaux sont tellement transformés, tellement différents qu'on peut pas reconnaître de vrais animaux américains derrière. Mais en tout cas, symboliquement, c'est bien sûr eux dont il est question.
Et dans les points communs dont on a déjà parlé, il y a quelque chose encore de plus particulier, c'est la transformation. Alors là, je crois qu'on trouve ça dans tous tes écrits, ou quasiment tous tes écrits. Moi, j'ai repris des le gang, forcément, ils sont tous transformés avec leurs greffes. Mais je me rappelle c'était K.L. dans Ferus Oxyr qui se transformait alors d'une manière complète. Et c'était une nouvelle quand même qui nous a bien tous marqués. Encore plus vieux, Cereza dans Odier chez Z. Il y a une transformation d'une petite fille en autre chose. Et puis Ivar dans Le Roi des Fous. Je ne sais pas si tu as un moment où tu n'as pas de transformation. Qu'est-ce que tu essayes, à quoi ça te sert, toi, dans tes récits, de parler de transformation?
Je pense que c'est une manière... Là, on fait appel à l'imaginaire. Quand on est auteur et autrice de l'imaginaire, on emprunte à ces voix... Ces voix magiques. Bah, en fait, je pense que ça vient du loup-garou, hein, tout simplement. Hein. C'est quand même une esthétique que j'ai toujours aimée depuis gamine. Moi, j'ai toujours voulu me transformer en loup, quoi. Et donc, je pense que c'est tout simplement ça qui émerge à travers toutes ces métamorphoses. Et comme j'aime bien le weird, mes personnages ne se transforment pas en loup, mais à la base, le roi des fauves, c'était l'icanthrope. Hein. C'était des personnages qui se transformaient tous en loup. Et puis je me suis dit, bah mince, c'est pas très original ton truc. Essaie d'aller chercher ailleurs. Et le roi des fauves est donc devenu de l'hybridation vers des berserques de la mythologie nordique, donc des animaux tels que l'ours, le sanglier, vraiment les guerriers fauves de la mythologie nordique. J'ai décalé en fait la lycanthropie vers autre chose. En fait, je passe un peu toute ma vie à décaler la lycanthropie vers autre chose. Mais j'ai des lycanthropes partout. Peut-être parce que j'en suis une.
Ouais, alors on va peut-être faire attention à la pleine lune. Mais la transformation est souvent douloureuse ou toujours monstrueuse. Mais finalement, à chaque fois qu'on arrive en fin de transformation, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et c'est ni bon ni mauvais, c'est autre chose. C'est souvent uniquement sauvage.
Ouais. Encore pour revenir avec les loups, moi, une de mes lectures références, c'est Femme qui court avec les loups, et qui est en fait une métaphore de la création, de l'émancipation des femmes. C'est les femmes qui courent avec les loups sont des femmes sauvages, retour à la femme sauvage et retour au féminin sacré et à l'émancipation, à la liberté, quoi.
D'ailleurs, il y a très très longtemps, sans doute, il y a un certain temps, tu avais écrit un article sur les chevaux monstres. Et donc, on est carrément dans la lycanthropie, sauf que c'est avec des chevaux, quoi.
Ouais, ouais, oui.
Donc, c'est des images qu'on connaît peu. Toi, tu les connais, mais nous, on les connaît peu. Enfin, le grand public les connaît peu, ces images-là.
Avec les chevaux?
Avec les chevaux, oui.
Ah, oui.
Parce que la symbolique du cheval est très très diverse, en fait.
Oui, oui, oui. Bah, enfin, c'est un animal qui est avec nous, avec l'humain, depuis bien longtemps. Hein. Comme le loup, d'ailleurs. Pour nous Européens, moi j'adore, effectivement, c'est vraiment très intéressant à traiter. Et dans Equinox, ma BD, je m'amuse à faire des fiches sur des chevaux fantastiques. Il y a à chaque fois 8 chevaux fantastiques qui sont décrits en fiches encyclopédiques dans Equinox. Et puis c'est des chevaux très délirants. Hein.
D'accord. Et effectivement, on parle encore de cheval. Il y a aussi les chevaux foudres.
Oui.
Donc qui ont un pouvoir quand même assez particulier, qui peuvent envoyer la foudre.
Oui.
Et alors, est-ce que je me suis demandé, est-ce que c'est une BD qui est pour tout le monde ou est-ce que c'est un peu plus une BD jeunesse?
Bah en fait, moi je m'en rends pas compte hein, quand j'écris, même si j'ai dit que je monte sur les freins et que je fais attention. Pour moi, c'était tout public et on m'a dit que quand même, comme il y avait pas mal de violences faites à l'animal, qu'il fallait quand même soit pour des jeunes lecteurs avertis, donc peut-être à partir de plus de 12 ans, quoi. Le roman Chevaux de foudre était à partir de 12 ans. Et là, en fait, on a une mise en image. Donc on voit... En fait, Chevaux de foudre, c'est les courses de chars à Rome, dans la Rome antique, revisitées en fantasy. Et donc, bah, les chevaux étaient exploités hein, pour les jeux du cirque. Hein. Il y en avait beaucoup qui mouraient sur la piste, hein, et les hommes aussi. Les conducteurs de chars et les chevaux avaient des accidents, on appelait ça des naufrages, sur la piste du cirque. C'était catastrophique. Et bon, maintenant, on a une équitation plus éthologique, mais bon, on vient quand même de très loin, et je pense qu'on a encore énormément de progrès à faire avec notre relation au cheval, donc ça parle de tout ça. Et donc on a une petite héroïne qui, elle, n'accepte pas le traitement fait aux chevaux du cirque, donc là, aux chevaux de foudre, et qui va, elle, proposer une autre relation avec l'animal, quoi.
Est-ce que tu as des projets là pour le futur?
J'en ai plein.
T'en as plein et en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu?
Alors là, je suis en train. Aurora est en train de dessiner Equinox 4. Ça va être incroyable. Moi, je suis en train de. J'ai commencé à écrire le 5. L'année prochaine, je vais commencer à faire les corrections éditoriales du roman qui va sortir au mois de mai chez Fleuve, La fille du feu, qui est un roman sur les feux de forêt. Donc contemporain. Avec plutôt fantastique pour le coup. C'est un roman que moi j'appelle à la Stephen King, parce que je suis une fan absolue de Stephen King, donc là j'assume mes influences. Et donc La fille du feu au mois de mai qui sortira chez Fleuve. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et j'écris pour la jeunesse aussi actuellement.
Ouais. T'es très très occupé.
Oui.
Pour finir, quelle musique voudrais-tu qu'on passe après ton interview?
Alors, ce qui serait marrant, ce serait d'écouter justement une musique de la soundtrack de Silent Hill 2. Et pourquoi pas Clockwork Little Happiness, si vous la trouvez.
Eh bien, super, on va chercher ça. Merci Aurélie, à bientôt.
Merci.
Imaginaire, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur le 100.5. Salut.
Bye bye.
Au revoir tout le monde. Au revoir.
Et attention à Nosferatu.
www.radio-g.fr. Listen to me, baby, if you wanna go with me. Night's still young and we're not doing it low key. 1, 2, 3, if you wanna go with me. Not that easy, and my love don't come for free.